J'ai des taches pigmentaires.
J'ai des hémorroïdes.
Je fais des pets vaginaux.
Je ronfle beaucoup.
J'ai des petits problèmes de fuite urinaire.
J'ai mauvaise haleine.
J'ai une mycose, j'ai des verrues.
J'ai des problèmes d'érection.
Consulte, c'est le podcast d'Easy Para qui répond à toutes vos questions sur les maux du quotidien. Vous savez ce que vous avez un peu honte d'aborder avec votre pharmacien? Sans tabou, on en parle avec des professionnels de santé.
Il vous est forcément arrivé de vous retrouver à côté d'un ou d'une partenaire qui fait ce doux rugissement qui vous empêche de vous endormir. Vous savez, ce moment où vous avez l'impression que les décibels diminuent et que ça repart finalement de plus belle. Et oui, les cas sont loin d'être isolés, car sachez qu'entre 40 et 60% des hommes ronflent. Et les femmes ne sont pas en reste, car elles sont une sur quatre à ronfler. Ce ronflement gênant peut aussi être le signe de problèmes de sommeil, voire d'apnée du sommeil qui touche 7% de la population. Les enfants aussi peuvent être touchés par le ronflement. Et tout ça sera l'objet de notre épisode du jour, le ronflement. Et pour en parler, nous recevons un spécialiste, le docteur Sébastien Arnaud, ORL et chirurgie cervico-faciale. Bonjour docteur.
Bonjour à tous, merci de m'accueillir dans votre émission.
C'est un plaisir et je serai accompagnée comme d'habitude donc de Nathalie, notre spécialiste santé chez Easy Para.
Bonjour à tous et j'espère qu'on va arrêter de ronfler.
Alors ça sera la question, on va essayer en tout cas de vous donner un maximum de réponses lors de cet épisode. Alors on se demande, tout simplement, je l'ai dit, les chiffres sont quand même assez importants, 40 à 60% des hommes, est-ce que vous, c'est un constat déjà que vous faites dans votre cabinet ?
Oui, on a beaucoup de consultations pour ces motifs et puis même pour régulièrement pour d'autres causes. Et puis en discutant avec les patients, notamment des patients qui viennent pour des nez bouchés, ils nous disent ben oui, je ronfle. Donc c'est très fréquent.
Alors c'est très fréquent. On va expliquer un petit peu les origines de ce problème. Hein. Pourquoi on vient à ronfler et surtout qui va être amené à ronfler? Pourquoi moi je vais ronfler, pas mon voisin, pas ma voisine? Comment ça se passe?
Alors, il y a plein de facteurs qui interviennent dans ces ronflements. En gros, c'est la mise en vibration de la muqueuse de la gorge, la partie haute, la partie basse et moyenne de la gorge au moment du passage d'air. Quand on dort, cet air peut créer des turbulences et mettre en vibration ces muqueuses. Ça crée un bruit, ce sont les ronflements. Quand vous baladez dans la rue, vous croisez tout un tas de personnes qui n'ont pas la même taille, pas la même corpulence, qui ne font pas le même poids. Et ce sont des facteurs anatomiques qui peuvent favoriser les ronflements. Quelqu'un qui sera grand, qui sera fin, qui aura un cou étroit, aura beaucoup moins de risques de ronfler que quelqu'un qui est en surpoids, qui est quelqu'un de trapu avec un cou court. De la même façon, quelqu'un qui a des grosses amygdales ou une langue qui est assez épaisse aura plus de risques de ronfler que quelqu'un de fin qui aura de la place au niveau de la gorge. Ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est que les ronflements, c'est dû à une mise en vibration des différentes muqueuses de la gorge. Plus vous avez d'espace dans la gorge, il faut s'imaginer que la gorge est un tuyau, plus vous avez d'espace dans ce tuyau, plus l'air passera facilement, moins il y aura de turbulence et moins il y aura tendance à y avoir de vibration de cette muqueuse. Donc ben, des hommes qui sont en surpoids, qui ont certaines maladies des muscles, certains hommes qui prennent des médicaments, les femmes pour les mêmes raisons pourront ronfler, il y a des facteurs de risque qui existent. Et on n'est pas tous égaux là-dessus. Le ronflement lui-même n'est pas un gros problème de santé pour le patient, mais peut être associé à d'autres troubles respiratoires plus importants. C'est pour ça qu'il faut s'y intéresser.
On en parlera juste après, donc dans une deuxième partie, des problèmes que ça peut entraîner et des solutions, évidemment. On est aussi là pour vous donner des solutions. En gros, comment les ronflements peuvent-ils être diagnostiqués et évalués?
Beaucoup, c'est un interrogatoire des hommes, des femmes, un peu de tout âge d'ailleurs, qui viennent soit alertés par leur entourage familial ou leur conjoint, leur conjointe, ou même parfois des gens qui ont des activités professionnelles qui leur imposent de voyager et de dormir en groupe. Et souvent, c'est l'entourage qui s'en plaint. Donc, soit à l'interrogatoire, soit l'autre chose, c'est lorsqu'on fait des diagnostics de dépistage du sommeil, on a la possibilité d'enregistrer le sommeil des patients, leur respiration et notamment les bruits qui sont faits, et on peut essayer de quantifier et de décrire ces ronflements.
Est-ce qu'on peut se poser la question, est-ce que vous avez besoin de rentrer dans la gorge? Est-ce que vous avez besoin de justement d'aller voir ce qui s'y passe, parce qu'effectivement, quand c'est la première fois qu'on consulte, on est toujours un peu stressé de se dire bah, « qu'est-ce qui va m'arriver ?»
Alors, il y a plusieurs niveaux dans la réflexion. Beaucoup l'interrogatoire, puisqu'on demandera au patient quelles sont les circonstances de survenue, d'épisodes de fatigue, est-ce que c'est toutes les nuits. On va essayer de qualifier si c'est une position sur le dos, sur le côté. L'autre niveau d'examen, c'est en examinant tout simplement la gorge des patients. On va essayer de voir s'il y a des anomalies morphologiques qui peuvent favoriser ces ronflements. Comme vous le signalez, on a la possibilité, en utilisant comme des caméras, on appelle ça des fibroscopes, qui nous permettent d'examiner le nez, la gorge, jusqu'aux cordes vocales et même la partie haute de la trachée. On essaie de regarder s'il y a des prédispositions anatomiques qui favorisent les ronflements. Et l'autre niveau d'expertise, parfois on examine les patients, c'est sous anesthésie générale. Le confrère ou la consoeur anesthésiste fait une perfusion d'un produit qui fait dormir le patient et on essaie de reproduire des conditions de sommeil, sauf qu'on est avec une caméra à l'intérieur du patient dans sa gorge. On essaie de regarder ce qui vibre et ce qui peut favoriser au niveau de l'anatomie, ce qui peut favoriser les ronflements.
Et du coup, à partir de quand on va commencer à s'inquiéter ? Parce que ça va être souvent, du coup, bah forcément le conjoint, la conjointe qui dort à côté de la personne qui ronfle. Comment distinguer un ronflement qui peut être problématique ?
Oui, alors le ronflement, en tant que médecin, on fait la différence entre ce qui pose un souci dans le couple et ce qui pose un souci pour la santé du patient. Le ronflement en lui-même, c'est rarement un problème de santé lorsqu'il est isolé. Ce qui pose souci, c'est que régulièrement, le ronflement peut être associé à des troubles du sommeil, des troubles respiratoires, les apnées du sommeil notamment, et c'est un facteur de risque d'atteinte cardiovasculaire, et ça justifie des expertises plus poussées.
Alors, nous allons passer à notre partie sur les questions de la communauté et nous avons une première question de Grégory, 28 ans.
Bonjour, j'aimerais savoir pourquoi je ronfle après un repas copieux.
Ça s'explique par le fait que quand on mange de façon copieuse, souvent, on prend de l'alcool. Et l'alcool a des effets sur les muscles en relâchant les muscles. Et en relâchant les muscles de la gorge, ceux-ci sont moins toniques, ont tendance à diminuer un petit peu le calibre de la gorge. Et on se retrouve à ce que je vous disais tout à l'heure, une gorge qui est un peu plus petite va avoir tendance à créer des turbulences parce que l'air va devoir passer dans un espace plus petit. Et ces turbulences vont provoquer la mise en vibration de la muqueuse de la gorge.
D'accord, donc du coup, c'est beaucoup plus lié à un repas plus alcoolisé que finalement un repas copieux, quoi.
Et puis également, la notion de fatigue. Quand on fait un repas copieux, souvent on finit à des heures un peu tardives, on peut avoir une fatigue, et là aussi, fatigue musculaire qui peut favoriser ça.
Oui, c'est ça, parce que moi, je remarquais aussi, typiquement, mon mari ne ronfle pas, sauf quand je sais qu'il a fait plusieurs nuits d'affilée où il a travaillé, et il est très fatigué, et il va ronfler énormément. Alors d'habitude, sinon, ce n'est pas du tout un ronfleur.
Là, vous voyez, on est votre mari sur plusieurs nuits d'affilée en ayant accumulé de la fatigue. En effet, peut donner ça. Il n'aura pas changé de morphologie. Donc, c'est vraiment la fatigue musculaire qui compte. Il n'aura pas pris 5 kilos. Quand on prend du poids, on peut avoir de la graisse qui se met notamment autour des muscles, qui diminue la taille de la filière de la gorge. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une gorge un peu plus étroite. Ça favorise les ronflements. Donc là, on est dans un autre cas. La fatigue musculaire favorise les ronflements.
Est-ce que les ronflements sont héréditaires ?
Oui et non. Oui, parce que je vous ai dit, il y a des prédispositions de l'anatomie, au niveau anatomique, qui favorisent les ronflements. Si vous êtes dans une famille de personnes de plus petite taille, à corpulence plutôt importante, vous êtes plus à risque de ronfler. Si vous êtes dans une famille de personnes de grande taille plutôt mince, vous avez moins de risques de ronfler. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les habitudes de vie, des habitudes alimentaires et d'éventuelles maladies qui favorisent les ronflements. Vous prenez du poids, vous allez plus ronfler. Vous prenez certains médicaments qui relâchent les muscles, vous allez plus ronfler. Donc les antécédents familiaux peuvent favoriser, mais pas que ça.
Du coup, à l'inverse, si je perds du poids et que je ronflais beaucoup, est-ce que je vais du coup moins ronfler la nuit ?
Alors, vous allez limiter un facteur favorisant des ronflements. Donc, est-ce que ça peut baisser ? Oui. Est-ce que ça va baisser ? Il y a plusieurs facteurs qui interviennent là-dedans, mais au moins vous aurez agi sur un des facteurs favorisants.
Allez, autre question de la communauté. Il s'agit de Stéphanie, 40 ans.
Comment faire quand une personne ronfle de façon irrégulière, d'un coup très fort et certains moments pas du tout. Voilà. Mais d'un coup, ça recommence et très très fort.
Un des éléments très importants, c'est la position dans laquelle on dort. Une des positions favorisant les ronflements, c'est sur le dos. Quand vous dormez, vous relâchez les muscles de la gorge et notamment la langue qui a tendance à basculer vers l'arrière. Et ça peut être. Donc ça diminue la taille de la filière de la gorge et c'est un facteur de risque de ronflement. L'autre chose aussi, des patients décrivent des ronflements, mais lorsqu'on enregistre les patients, on se rend compte que ce n'est pas des ronflements, c'est des apnées. Et souvent, c'est assez impressionnant parce que les patients s'arrêtent de respirer d'un coup et font une reprise rapide de la respiration, une reprise bruyante, et les patients disent que se traduisent ça en ronflement, mais en vrai, c'est des apnées, ce sont des apnées. Et c'est souvent ce qui impressionne l'entourage, oui.
Donc effectivement, on a parlé des hommes, on a parlé des femmes, et les ronflements n'épargnent pas les enfants. Un enfant n'est pas censé ronfler s'il n'a pas de problème spécifique.
Vous avez raison, un ronflement chez un enfant, c'est un problème, ça montre qu'il ne respire pas bien, et lorsqu'un enfant ne respire pas bien la nuit, il ne dort pas bien, et ça peut engendrer de la fatigue dans la journée, des troubles du comportement, ce qu'on appelle une urésie, c'est-à-dire des enfants qui font pipi au lit encore très tard, et même ça peut favoriser des infections, parce que le ronflement est dû à un mauvais passage de l'air au niveau du nez, ça peut provoquer des réactions inflammatoires au niveau du nez et de la gorge, des irritations de la gorge, puisque l'air, en n'étant pas filtré par le nez, aura tendance à irriter plus la gorge des enfants. Un enfant ne doit pas ronfler, alors, sauf s'il a une infection virale aiguë, mais il ne doit pas ronfler sur plusieurs semaines, plusieurs mois d'affilée. Ça doit justifier une consultation.
Ça peut traduire de l'apnée du sommeil, du coup, c'est forcément lié à un problème de ce genre-là ?
Alors, oui et non. Les apnées du sommeil, ça va être des blocages respiratoires complets chez l'enfant. Alors, hors maladie grave, malformative, c'est avant tout chez des enfants qui ont des grosses amygdales. Les amygdales vont diminuer la taille de la gorge, et même pendant la nuit, ça peut quasiment fermer la gorge, et c'est ce qu'on appelle les apnées. Chez l'enfant, ce qui sera le plus fréquent, c'est des ronflements dus au fait qu'il respire bouche ouverte. Quand vous respirez bouche ouverte, vous avez de grandes quantités d'air qui arrivent d'un coup au niveau de la bouche, alors que quand on respire par le nez, l'air est filtré, réchauffé, humidifié et guidé de façon efficace au niveau de la gorge. Ça limite les turbulences au niveau de la gorge, ça limite les ronflements. Un ronflement chez un enfant souvent est associé à un nez bouché, et c'est associé à une diminution de la qualité de la respiration et donc du sommeil. Ce sont des enfants qui sont fatigués avec un sommeil qui va être saccadé. Ce n'est pas normal qu'un enfant ronfle.
Du coup, la question, c'est de se dire vers qui je dois amener mon enfant, plutôt un pédiatre, plutôt un ORL, comment ça se passe ?
Ça dépend de la sensibilité du praticien que vous allez voir. Il y a dans ma spécialité au niveau ORL comme en pédiatrie, des médecins qui seront plus sensibles à ce problème qu'à d'autres. En pratique, ce qui est important, c'est d'évaluer le retentissement sur l'état général de l'enfant et sur sa croissance. Un enfant qui va ronfler, qui ne va pas bien respirer, peut avoir des troubles de l'apprentissage, une fatigue, des troubles du comportement, et même parfois sur la durée, mais sur plusieurs années, des modifications du positionnement des dents, voire des déformations du visage. En ayant la respiration, en ayant le nez bouché, en respirant par la bouche, les dents ne se développent pas bien, la partie osseuse du visage ne se développe pas bien. Donc, en pratique, les confrères pédiatres sont en première ligne. Lorsque les problèmes durent pendant longtemps, c'est au niveau ORL que ça doit se jouer. Et alors parfois, lorsque les diagnostics sont faits un petit peu tard, sont les confrères et les consoeurs orthodontistes, donc qui s'occupent du bon positionnement des dents, qui vont se dire « mais il y a un problème, les dents sont vraiment mal positionnées, certainement ça vient d'un problème respiratoire ».
D'accord, donc c'est hyper intéressant de savoir qu'en fait, on peut faire plein de choses, qu'on s'en va s'en apercevoir, et surtout de rassurer les papas et les mamans.
Oui, il faut rassurer, mais il faut s'en occuper parce qu'on peut avoir le fait de ronfler, d'avoir le nez bouché, ça peut engendrer des rééducations orthophoniques, de la kinésithérapie au niveau de la langue. Ça peut engendrer des traitements longs au niveau orthodontique qui pourraient être raccourcis en gérant ses problèmes respiratoires et puis en plus en permettant à l'enfant de dormir dans de meilleures conditions.
Du coup, est-ce que, juste pour finir avec cette partie-là, mais est-ce que ça vous arrive encore, enfin, ça arrive encore d'enlever les amygdales des enfants quand c'est comme ça? C'est quelque chose que vous conseilleriez dans ce cas-là?
Il faut savoir, quand on est chirurgien, à l'époque, il y avait quelques modes pour la prise en charge des enfants. Maintenant, c'est fait de façon sérieuse. Il faut avoir de sacrés arguments pour opérer les enfants, notamment lorsqu'on diagnostique des troubles du sommeil, des ronflements, de la fatigue. Il y a un vrai impact sur le quotidien et ça peut justifier une chirurgie des amygdales. Même, on opère régulièrement des chirurgies de nuit bouchée chez des enfants parce qu'il y a un impact sur le quotidien et je vous ai dit également sur la croissance. Alors, les amygdales, il y a des techniques récentes qui ont été développées qui permettent d'enlever une partie des amygdales lorsqu'il n'y a pas de gros problèmes infectieux. Ben le but, vous enlevez une partie des amygdales, vous libérez de la place au niveau de la gorge, et à ce moment-là, vous permettez à l'enfant d'avoir une qualité de sommeil largement améliorée. Je peux vous assurer que dans sa qualité de vie, il n'y a pas photo. Et lorsque l'indication est posée, et dans les suites opératoires, les parents reviennent, et on leur demande si l'intervention s'est bien passée. Ils nous ont dit, au début, on s'est inquiété. Ah bon, pourquoi vous êtes inquiété? On n'entend plus respirer notre enfant la nuit. Il dort calmement. Il a un sommeil moins agité. De temps en temps, ils font un peu moins pipi au lit. Ils ne se lèvent plus la nuit. Le matin, ils sont plus en forme. Donc, on évoque régulièrement l'intérêt d'une chirurgie, mais je peux vous assurer si ça peut aider la qualité de vie et puis améliorer la croissance des dents et du visage. Il n'y a pas photo.
Donc, les ronflements, on le voit, et vous allez nous éclairer sur ce sujet-là, peuvent être vraiment associés à un problème de santé, donc ou à des problèmes différents de santé, comme l'apnée du sommeil, par exemple, ou autres problèmes.
Oui, il y a trois niveaux qu'il faut relever. Premier niveau, c'est le ronflement occasionnel, des patients qui ne sont pas très fatigués. Ça se traduit régulièrement par des plaintes de l'entourage, mais qui ne sont pas quotidiennes, qui ne posent pas spécialement de soucis dans le couple ou d'autres raisons. Le deuxième niveau, c'est des soucis de ronflement, avec régulièrement un nez qui est bouché, des nuits un peu plus difficiles, mais pour le patient lui-même, pas pour son entourage, mais pas d'apnée. Alors à ce moment-là, on peut discuter certains types de traitements pour essayer d'améliorer la respiration du nez. Si ça suffit pas et que le patient nous dit qu'il a le nez bouché, ben, en intervenant pour aider le nez à mieux respirer, ça peut diminuer les ronflements. Je serais très arrogant de vous dire qu'en opérant un nez et en aidant ce nez à bien respirer, les ronflements vont disparaître. Non, le but, c'est au moins de les diminuer. Et puis, comme je vous le signalais tout à l'heure, lorsqu'on respire par le nez, on a une bien meilleure qualité de sommeil. Donc de temps en temps, on a des patients qui n'ont pas de signes graves de ronflement associés à des apnées, qui sont pris en charge pour les aider à mieux respirer par le nez. Et ça leur apporte un vrai confort au niveau respiratoire. Et puis après, le troisième niveau de gravité, c'est ce que vous me signaliez, eh bien, c'est les ronflements, mais qui sont associés à des troubles respiratoires plus sévères, les apnées. Et alors à ce moment-là, c'est des vrais facteurs de risque au niveau cardiovasculaire, d'hypertension artérielle et même d'accident vasculaire cérébral.
Mais alors docteur, comment va-t-on traiter ces apnées du sommeil?
Alors je vais commencer par une petite partie de ces apnées qu'on peut guérir, mais c'est une partie, de temps en temps, on peut opérer les patients. C'est une minorité de patients qui ont des éléments dans la gorge qui les empêchent de respirer. Plus fréquemment, c'est des grosses amygdales. On enlève ces amygdales, d'un coup on restaure de la place dans la gorge et le patient peut respirer. C'est sincèrement une petite minorité des patients. Ça concerne beaucoup plus fréquemment les enfants. Et d'autres traitements peuvent être proposés pour les apnées. Alors parfois on se rend compte que les apnées n'interviennent chez des patients que quand ils dorment sur le dos. Donc on peut proposer des traitements positionnels pour empêcher les patients de dormir sur le dos. Et puis régulièrement, ça peut être des traitements soit d'orthèse d'avancée mandibulaire où on avance la mâchoire pour libérer de la place dans la gorge. C'est des systèmes comme des appareils dentaires. L'autre option, et c'est ce qui est régulièrement le traitement de première intention, c'est un masque qui envoie l'air sous pression. C'est un traitement naturel qui envoie l'air sous pression et cet air sous pression est transmis à la gorge et maintient la gorge ouverte. Il faut s'y habituer, mais ça marche très bien. Et lorsque le traitement est bien toléré, bien pris, ça change littéralement la qualité de vie et même la vie des patients. C'est des patients qui retrouvent le moral, qui ont de la tonicité, qui ont une qualité de vie nettement améliorée. Et tout ça en limitant leur risque cardiovasculaire.
Et du coup, ces masques ne sont-ils pas un peu contraignants pour les patients ?
Vous avez raison, parce qu'au début, quand on dort, on aime bien avoir un confort. Dormir avec un masque, ça peut être un petit peu oppressant. Mais alors, très rapidement, quand vous avez les bienfaits de ce masque, je peux vous assurer que votre vie, elle change. Et c'est le meilleur argument pour les porter. Des patients deviennent, je vais dire dépendants, mais ne peuvent plus se passer de leur masque. Et puis également, il faut passer à l'entourage. Ces masques, en diminuant les apnées, en diminuant les ronflements, permettent aux conjoints de dormir dans de bien meilleures conditions. Donc, ça demande un effort, mais je peux vous assurer que c'est sacrément bénéfique.
Justement, au niveau des traitements médicaux disponibles à votre chapelle, vous avez quoi ?
Alors, il y a certains traitements qui sont proposés en parapharmacie, qui parfois peuvent aider les patients sur des formes pas trop sévères. Et lorsque les patients n'ont pas de signes de gravité, notamment de fatigue associée, certaines huiles essentielles, il y a des dilatateurs des narines qui peuvent être essayés. Avec des effets de temps en temps aléatoires, mais ça rend service aux patients. Nous, ce qu'on peut proposer régulièrement, ce sont des traitements anti-inflammatoires à mettre au niveau du nez, parce que ça peut aider la respiration au niveau du nez et parfois limiter les ronflements. Après, je vous ai parlé de facteurs de risque anatomique au niveau de la gorge. Les médicaments eux-mêmes n'auront pas d'efficacité là-dessus. Mais peut se discuter des systèmes qu'on appelle d'orthèse d'avancée mandibulaire. Très schématiquement, ce sont des appareils que vous mettez entre les dents du haut et du bas qui vont avancer la mâchoire. En avançant la mâchoire, vous allez avancer un peu la langue et puis vous allez ouvrir la gorge. Et je vous ai dit qu'en ouvrant la gorge, on limitait les ronflements. Alors après, c'est disponible en parapharmacie. Sur les formes un peu plus sévères, on n'hésite pas à recommander l'avis de confrères dentistes, parce que ces systèmes-là, en appuyant sur les dents, peuvent engendrer des modifications de rapport entre les dents du haut et du bas.
Et moi, j'ai l'impression que c'est un mythe, mais il y a quelques années, on coupait l'aluette, non, pour les gens qui ronflaient.
Vous voulez que je vous dise, moi j'ai démarré la spécialité, c'était un peu à la mode l'aluette. Les amygdales, déjà, c'était passé depuis un petit moment. À l'époque, à la moitié des patients, s'ils avaient su comment ça se passait pour les résultats obtenus, ne se seraient même pas fait opérer. Donc, les techniques ont été essayées, les résultats sont régulièrement un petit peu limités avec un risque de récidive important. Et c'est vrai qu'on propose de temps en temps ce type de chirurgie, mais pour des conditions anatomiques particulières, des patients qui ont des grosses luettes. Donc ça se pratique, mais moins qu'avant.
D'accord.
Je voulais revenir sur les personnes qui sont allergiques finalement et qui, elles, ont tendance à ronfler beaucoup plus, surtout quand elles sont en période de crise. Qu'est-ce qu'on peut conseiller pour ces personnes ? Est-ce qu'il faut consulter ? Est-ce qu'il faut justement aller voir plutôt un ORL ? Est-ce qu'il faut aller voir un pneumologue ? C'est vrai qu'on est un peu perdu par cette notion d'allergie.
Alors, ça dépend de quoi vous vous plaignez quand vous êtes allergique. Si vous vous plaignez surtout de tousser, d'avoir une irritation au niveau des bronches, à ce moment-là, c'est vrai que l'avis pneumologique semble être à recommander initialement. Si vous avez les yeux qui grattent, le nez qui gratte, le nez qui coule, à ce moment-là, c'est vrai que l'avis d'un allergologue, et souvent c'est une double spécialisation, les pneumologues, allergologues, première intention, ça peut être intéressant. Et puis, si c'est beaucoup le nez qui est bouché, patients qui sont allergiques, qui ont du mal à respirer par le nez, qui ont essayé différents types de traitements, des bilans d'allergologie qui n'ont pas permis de les soulager suffisamment, ben c'est là où l'ORL a une place afin d'améliorer le patient dans sa respiration au niveau du nez notamment.
Moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'hygiène de vie. Du coup, on n'a pas parlé du tout des fumeurs. Est-ce qu'en premier conseil, vraiment de base, on pourrait déjà conseiller une certaine hygiène de vie pour influer sur le ronflement et donc la qualité du sommeil, ou pas du tout? Il n'y a pas grand-chose à faire?
Si, si, il y a plein de choses à faire. Hein. La perte de poids. On est toujours un peu mal à l'aise de dire au patient, voilà, une patiente qui est en surpoids, écoutez, vous risquez d'avoir de bonnes surprises si vous arrivez à perdre quelques kilos. L'alcool, qui est un facteur de risque. Limiter certains types de traitements. Vous savez, des patientes qui sont angoissées, qui prennent des médicaments anxiolytiques, sont des facteurs de risque de ronflement. Et puis, je vous ai dit aussi en début d'échange, le fait d'être fatigué augmente le ronflement. Il faut essayer d'avoir une bonne hygiène de vie, s'imposer des heures de sommeil correctes, et ça peut nettement aider.
Le tabac, du coup, vous n'en avez pas parlé.
Alors, pour le tabac, c'est un facteur d'irritation au niveau des muqueuses du nez qui peuvent diminuer un petit peu le passage de l'air au niveau du nez et donc favoriser les ronflements. Ce n'est pas un des gros facteurs connus de ronflement. Je serais quand même malvenu de ne pas conseiller aux patients qui fument d'arrêter.
Moi, j'avais aussi une question concernant en fait tous les sprays à base d'eau de mer. Est-ce que finalement, c'est une bonne idée de tous les soirs en fait nettoyer son nez justement quand on a tendance à ronfler?
Alors, c'est bien. Tout simplement, l'intérêt, quand vous lavez votre nez, puis on va discuter des modalités de nettoyage du nez, ben vous enlevez du mucus qui est sécrété en excès, vous diminuez un peu l'inflammation du nez, vous libérez de la place pour que le patient ou la patiente puisse mieux respirer par le nez. Et puis, autre chose, c'est que ce que vous avez enlevé par le lavage de nez au niveau sécrétion, ça ne va même pas couler dans la gorge, et donc ça permet de limiter l'inconfort du patient. Après, on peut discuter des différentes modalités de lavage de nez. Les sprays d'eau de mer, pourquoi pas? Vous savez, c'est des pulvérisations, ce n'est pas très abondant. Ce qui marche bien, c'est des systèmes, il y a différentes marques qui existent. Ou vous faites un lavage avec un volume équivalent à une demi-canette de soda. Vous mettez du sel, soit de cuisine, soit proposé en pharmacie. Vous mettez de l'eau tiède ou chaude du robinet, ou sinon des solutions déjà proposées en pharmacie. Vous faites votre lavage comme ça. Un lavage plus abondant sera un lavage plus efficace que les sprays. Mais c'est un peu plus contraignant.
C'est intéressant de donner ce genre de conseils, en plus fait maison. On n'est jamais très habile sur ces lavages de nez. On ne sait jamais trop comment il faut les mettre, s'il faut les mettre la tête penchée, même aux enfants, s'il faut en mettre trop, pas assez.
Mais je vous en prie, vous savez, le principe, de toute façon, c'est que le lavage de nez rentre d'un côté et sort de l'autre. Donc certains patients auront besoin de se tordre un peu dans tous les sens pour y arriver, mais globalement, ça se fait facilement au-dessus d'un lavabo, en inclinant la tête sur le côté, en baissant un peu le menton, ça se fait naturellement. Et ça ne doit pas être douloureux. Hein. Je me permets de préciser, un lavage de nez, ça doit presque être agréable, ça ne doit pas piquer, ça ne doit pas faire mal, sinon c'est qu'il y a un souci dans le dosage du sel.
On l'a un peu évoqué, mais ce serait vraiment pour résumer et conclure cet épisode. À quel moment je m'inquiète de mon ronflement et je vais consulter?
Alors, on va faire le plus simple pour l'enfant. Un enfant qui ronfle sur plusieurs semaines, quelques mois, il faut consulter. Pour son conjoint, il faut consulter lorsque c'est associé à des apnées du sommeil. Pour soi-même, on faut consulter lorsque on est fatigué, qu'on a une mauvaise qualité de sommeil parce qu'on a la bouche sèche, on a le nez bouché, parce que les ronflements, même si ce n'est pas forcément associé à un problème grave de santé, ça peut être associé à des troubles respiratoires qui diminuent la qualité de sommeil et la qualité de vie. Donc en gros, c'est quand ça impacte soit soi-même, soit l'entourage.
On a une question qu'on aime bien poser à nos professionnels de santé et notamment aux médecins. Est-ce que pour vous, vous avez un malaise à aller demander quelque chose à votre pharmacien préféré?
Alors, vous tombez sur la bonne personne. Moi, j'ai aucun problème à demander aller voir mon pharmacien pour avoir des conseils et des médicaments dont j'ai besoin. Et même, j'irai au-delà de ça, je vais régulièrement pour ma famille, demander des médicaments qui parfois peuvent gêner. Je vous laisse imaginer dans quel domaine de la vie ça peut être. Voilà.
Parfait. Merci docteur. Et c'est important parce que c'est la question qu'on veut poser aux professionnels de santé parce que c'est l'objet aussi de ce podcast, de parfois ne pas hésiter ou en tout cas de leur donner des conseils s'ils ont des petits soucis de santé qu'ils n'osent pas aborder avec leur pharmacien.
Il faut aller voir les gens bienveillants pour soi.
Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. Et docteur, on va terminer par notre question de conclusion qu'on aime bien poser aux professionnels de santé. C'est Nathalie qui va vous la poser.
Est-ce que je peux avoir votre secret pour rester en bonne santé ?
Oui, bon, faut rester au maximum de bonne humeur. On dort mieux, on mange mieux et on a moins de problèmes cardiovasculaires. Après, tout se commande pas, mais je pense que c'est des recettes simples.
Donc la bonne humeur, c'est ce qui va permettre en fait de se maintenir en bonne santé aussi.
Tout à fait.
Bah merci, mais je trouve que c'est un conseil qui est très simple, mais qui est, je pense, extrêmement efficace. On va vous remercier énormément, docteur Arnaud, pour votre intervention. C'était extrêmement intéressant, cet épisode sur le ronflement. Je pense que beaucoup, beaucoup de gens sont concernés, on l'a dit en introduction, entre 40 et 60% des hommes et une femme sur quatre. Donc 25%, ça fait des beaux pourcentages.
Merci
beaucoup, on va vous souhaiter une bonne journée et on vous dit à bientôt. À bientôt, Nathalie.
À très bientôt. Merci pour cette intervention qui a été super intéressante et je crois qu'on en sera beaucoup plus dorénavant.
Merci mesdames, au plaisir, au revoir.
Ce podcast vous a été présenté par easypara.fr, votre parapharmacie en ligne. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. À très vite.